Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu nous as donné ton Fils, Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre pour porter nos péchés, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour donner sa vie pour nous. Et si nous sommes là, Seigneur, c'est pour te rendre gloire et grâce de tout ce que tu as accompli, pour que tu nous enseignes, pour que tu nous parles pendant ces moments, pour que tu nous donnes ta parole, mais aussi, Seigneur, pour que nous soyons devant toi, Seigneur, dans la reconnaissance pour tout ce que tu as fait. Nous comptons sur toi pour ces moments, Seigneur, que tu ouvres nos cœurs pour que nous soyons réceptifs à ce que tu as à nous dire. Amen.
Alors, nous allons ouvrir notre Bible dans Exode au chapitre 19 et nous allons lire quelques versets, les versets 10 à 25. Alors, il s'agit du moment qui précède la venue de l'Éternel sur le mont Sinaï. Et le Seigneur va donner la loi et les commandements à Moïse. Et juste avant, il donne des recommandations pour le moment où il va aller venir sur le mont Sinaï. Alors, Exode 19, au verset 10. « Et l'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements. Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tous les peuples sur la montagne du Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera et on le percera de flèches, animal ou homme. Il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront auprès de la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifie le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Et il dit au peuple, « Soyez prêts dans trois jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le troisième jour, au matin, il y eut du tonnerre et des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent en bas de la montagne. La montagne du Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne du Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, « Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périsse. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. » Moïse dit à l'Éternel, « Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne du Sinaï, car tu nous as fait la défense expresse en disant, « Fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. » L'Éternel lui dit, « Va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. » Moïse descendit vers le peuple et il dit ces choses. Dans ce passage, donc, on voit Dieu qui va venir rencontrer le peuple, et plus particulièrement Moïse, sur le mont Sinaï. Trois jours avant, Dieu donne des instructions. Des instructions à Moïse, et il demande au peuple de se préparer. « Soyez prêts, leur dit-il. » Il va venir à leur rencontre pour dicter la loi, les commandements, mais il doit fixer des limites au peuple et leur demander de garder une distance. « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. » Deux fois, Dieu prévient que le peuple ne doit pas toucher la montagne sous peine de mort. Dieu prévient, prend des précautions pour le peuple en disant à Moïse, « Va, descends, que le peuple ne se précipite point pour monter vers l'Éternel de peur qu'il ne le frappe de mort. » Il donne donc les recommandations à Moïse pour le peuple. Il prévient donc qu'il ne pourra pas voir le peuple. Quand l'Éternel vient sur la montagne, elle tremble. Le peuple est épouvanté. Même Moïse ne peut pas voir Dieu. Il est inaccessible. cette situation paraît épouvantable. Alors pourquoi ? Bien, on pourrait dire, entre autres, à cause de la sainteté de Dieu, et je trouve surtout cette raison-là, là nous est montrée l'extrême sainteté de Dieu et l'inconscience du peuple concernant ses péchés. Sa gloire, mais surtout sa sainteté, ne sont pas compatibles avec Israël, malgré qu'il soit son propre peuple qui l'a choisi. Dieu reste dans la nuée et même dans le feu. Il est interdit de toucher la montagne, la mort s'en suivrait. À nous ce matin, et en premier, il nous dit « Soyez prêts, sanctifiez-vous pour prendre ce repas ». Il nous faut prendre un peu conscience, un peu plus conscience ce matin, du niveau de sainteté de Dieu. Ça nous a été démontré dans ce passage. Et nous voulons le faire parce que nous allons nous adresser à lui, c'est-à-dire nous allons lui parler. Vu notre texte, ce que nous avons lu, et vu l'inaccessibilité de Dieu, il y a un paradoxe avec ce moment que nous voulons partager avec le Seigneur. Et c'est dit dans la parole, avec Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». C'est donc un paradoxe. Et une question simple reste, si le peuple ne pouvait toucher la montagne et encore moins voir Dieu, comment pouvons-nous, nous approcher de Dieu ce matin ? Le parallèle de ce texte d'Exode 19 que nous avons lu se trouve dans Hébreux 12. Et nous allons prendre donc Hébreux 12, où nous allons trouver bien sûr la réponse à cette question. Hébreux 12 à partir du verset 18. Donc il s'adresse à nous, l'auteur des Hébreux s'adresse à nous, des croyants. On lit à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur fût plus adressé aucun de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle serait lapidée ou percée d'un dard. » Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des juges parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Donc dans ces versets, du verset 18 au verset 21, l'auteur rappelle les circonstances, celles que nous avons vues dans Exode 19, ces circonstances qui se sont déroulées au mont Sinaï avec tous ces désordres naturels. Moïse lui-même était épouvanté et tout tremblant, c'est ce que nous venons de lire. Et il nous rappelle que nous n'avons pas approché cette montagne qui tremblait embrasée par le feu, cette montagne qu'il ne fallait pas toucher, comme ce fut donc pour le cas du peuple d'Israël. Mais, et il y a un mais, le mais du verset 22, « Mais, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment les cœurs des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. » Et le verset 24, « Vous vous êtes approchés de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. » Nous, croyants de la nouvelle alliance, nous n'avons pas été touchés par la terreur du mont Sinaï, mais nous avons été accueillis par la grâce quand nous nous sommes approchés de Dieu. Dieu n'est pas resté à distance, mais nous nous sommes approchés avec confiance du trône de la grâce. Un auteur disait « Fini la montagne de feu, la sombre nuée, nos frayeurs et notre culpabilité. » Fin de citation. Nous profitons donc maintenant, aujourd'hui, d'une nouvelle alliance et d'un plan pour les hommes, ce nouveau plan que Dieu a décidé pour les hommes. Ce « mais » du verset 22 nous dit pourquoi nous sommes là ce matin. Il nous rappelle que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion qui symbolise les grâces de l'Éternel et l'œuvre rédemptrice de Dieu. Mais de qui et à quel prix est venu ce prodigieux rapprochement? C'est précisément verset 24 que nous avons lu, que nous avons trouvé la réponse, ce médiateur de cette nouvelle alliance qui n'est autre que le Seigneur Jésus que nous célébrons ce matin. Impossible d'approcher Dieu sans le Christ et surtout sans le Christ crucifié. Moïse recevait simplement la loi et la redonnait au peuple. Le Christ Jésus est celui qui, par son sang, a scellé l'alliance en s'offrant rançon pour beaucoup. Et il nous donne un libre accès dans son sanctuaire au moyen du sang, selon Hébreux 10, verset 19. Par lui, par Jésus notre Sauveur, et pour nous donner accès au Père, Ésaïe prophétisait en ces mots, « Il a été meurtri, il a été méprisé et abandonné des hommes, il a été blessé pour nos péchés, il a été brisé pour nos iniquités, mais aussi maltraité et opprimé. Il a été enlevé par l'angoisse et par le châtiment. » Pour nous, son châtiment nous a donné la paix, ses meurtrissures nous guérissent. Par son sang, nous bénéficions de l'alliance éternelle avec le Seigneur et il nous donne maintenant le libre accès pour cette nouvelle route. Avant, les péchés étaient couverts temporairement jusqu'au prochain sacrifice. Désormais, il nous pardonne, il ne se souvient plus de nos péchés, ils sont au fond de la mer. Désormais, nous pouvons dire ces quelques citations que j'ai trouvées et que je vous livre. Les terreurs de la loi et de Dieu n'ont plus rien à voir avec moi. Mes péchés sont cachés aux yeux de Dieu par le sang de Jésus, car Christ a obéi jusqu'à la croix. À jamais notre conscience est en paix, car sur son trône céleste, l'agneau est immolé. Nous allons donc nous approcher du Seigneur avec crainte et tremblement, puisqu'il le permet à cause du prix payé. Nous ne sommes plus à distance et nous pouvons profiter de l'accès qu'il nous permet. Quelques indications indispensables pour ce moment, pour prendre ce repas, nous sont fournies à la fin du chapitre 12 des Hébreux que nous venons de lire. Alors nous relirons ces versets 28 et 29 de la fin du chapitre 12. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Alors nous allons profiter maintenant de cette accessibilité et nous allons remercier le Seigneur avec crainte et tremblement, car ce qu'il a fait pour nous est extraordinaire et nous permet maintenant de lui parler, de s'adresser à lui. Nous prions. Merci Seigneur parce que tu nous as rendu cet accès libre et tu l'as fait Seigneur au prix de ton sang. Nous te remercions Seigneur parce que tu as conçu comme ça Seigneur cette nouvelle alliance et nous en profitons maintenant avec respect pour toi. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.
Ce cantique nous a montré que nous allons être à lui et lui à nous pour l'éternité. Et aujourd'hui il y a du soleil et un jour, un dimanche, il y aura un plus grand soleil. Mais ce ne sera pas le soleil, ce sera le Seigneur Jésus lui-même. Et nous serons dans la lumière, et nous serons dans une joie que nous n'avons encore pas connue, dans une paix éternelle avec tous ceux qui nous ont précédés. Il faut que bien qu'on ait dans notre cœur l'héritage céleste qui nous est promis. Parce qu'il nous en a beaucoup parlé dans la parole, et s'en réjouir. Mais si cela arrivera, et ça arrivera bien sûr, autant voulu par Dieu, c'est parce qu'il a souffert la croix, comme on l'a rappelé ce matin, parce qu'il a fait ce sacrifice terrible. Et on va prendre la parole pour revenir sur ces moments de la croix. Justement, pas pour paraphraser ce qu'a dit Alain, au contraire, mais on va prendre dans Matthieu, au chapitre 27. Et on lira Matthieu 27, les versets 33 à 50. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifiait lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la sixième heure, c'est midi. Jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Eli ». Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, ayant fixé un roseau, lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Il a rendu son esprit. Il n'est pas mort comme les autres. Il a rendu son esprit une fois le sacrifice accompli. Voilà donc le récit qui nous est donné. On prendra quelques versets maintenant dans Marc pour voir comment ces moments terribles de la croix, dont dépend notre éternité de bonheur pour ces jours qui vont venir pour nous après notre départ, dans Marc 15. Et là, on lira les versets Marc 15, versets 24 à 32. Marc 15, versets 24. « Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. » C'était la troisième heure quand il le crucifiait. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Ils crucifèrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce qu'a dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et on retrouve les vociférations de tous ceux qui sont autour, les passants, principaux sacrificateurs, scribes, et puis également de ces deux brigands qui aussi l'insultent. Ça, c'est le deuxième récit complet. Et enfin, on prendra dans Luc, au chapitre 23, au verset 39 à 43. Luc 23, au verset 39, après que tout était de nouveau expliqué, comme l'a fait Matthieu et Marc, au verset 39, « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà ce qui s'est passé à la croix. Et tout est important si le Seigneur l'a voulu ainsi. La crucifixion du Seigneur a été demandée par le peuple, par les chefs religieux, les chefs politiques, et pourtant personne ne pouvait rien lui reprocher, aucun acte répréhensible. Seul, c'était leur haine contre Dieu, la haine qui est dans le cœur de tous les hommes, ceux qui étaient là bien sûr, la haine contre Dieu et son Fils, qui, avec un mépris de ses prophètes et de sa parole, qui justifiait leurs cris, qui retentissent, et ces cris sont horribles. « Crucifie, crucifie !» ont-ils dit à Pilate qui voulait le relâcher. Et il refusait évidemment de se repentir et de croire en lui. Et dans Marc 15, au verset 11 à 14, les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous avez appelé le roi des Juifs ?» Et ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le !» Pilate leur dit, « Quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Ça, c'est notre cœur. Et nous aurions été, si nous avions été au pied de la croix, nous aurions dit la même chose. Et Pilate, voulant satisfaire la foule, le relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Donc nous avons dans les trois évangiles les mêmes personnes. Et les mêmes personnes, ce sont les passants, on l'a vu, qui l'injurient, qui secouent la tête. « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en trois jours, descends de la croix. » Et puis l'ennemi de Dieu, dans ses passants, va les pousser afin qu'ils incitent Jésus à descendre de la croix. Et c'était possible, tant les souffrances physiques étaient atroces, mais surtout les souffrances spirituelles, de prendre tous nos péchés, comme on l'a rappelé tout à l'heure, les vôtres et les miens, à ce moment-là, il les prenait sur lui. Il devenait le péché, c'est-à-dire la chose la plus horrible pour lui et pour le Père. Et en même temps, il nous délivrait, il nous purifiait de nos péchés, il nous en libérait, et nous pouvons les oublier, comme on l'a dit tout à l'heure, et retrouver la paix. Et c'était donc possible, tellement c'était terrible, qu'il ait cette pensée de pouvoir descendre la croix pour échapper à cette terrible chose de devenir le péché pour Dieu. Nous ne pouvons pas tellement l'imaginer. Il faut que le Saint-Esprit nous le montre chaque jour, parce que notre louange pour Dieu et notre action dans notre vie sera encore plus grande. Et c'est pourquoi, dans Ésaïe 53, verset 5, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. S'il était descendu de la croix, nous allions tous en enfer. » S'il était descendu. Quel combat il a mené pour rester sur la croix, tellement le poids était horrible de devenir le péché, alors qu'il avait toute la puissance pour descendre de la croix. C'est bien que le Seigneur puisse nous montrer les choses profondément pour que nous puissions être encore plus reconnaissants. Les principaux sacrificateurs vont aussi se moquer de lui, on l'a vu, il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même, qu'il descende de la croix. Et nous croirons en lui. Ça va encore un peu plus loin. Il s'est confié en Dieu, bien que Dieu le délivre maintenant, puisqu'il s'est fait fils de Dieu. Mais par contre, ils reconnaissaient tous, que ce soit les passants, les principaux sacrificateurs ou le chef, ils reconnaissaient tous ces miracles dont il parlait, toute la bonté dont il a eu lieu, il y a même eu des résurrections, mais ils refusent de se repentir alors qu'il est sur la croix. Et à ce moment-là, les soldats aussi se moquaient de lui et s'approchant lui présentaient du vinaigre. Et sur cette croix si terrible, les souffrances qu'il a supportées, eh bien, Jésus va s'écrier, ça a été le point le plus haut de sa douleur. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous avons le privilège de pouvoir recevoir de Dieu par le Saint-Esprit ce qu'a été vraiment la croix dans ses souffrances pour Jésus. Et demandons à Dieu qu'il nous le montre chaque jour de plus en plus, afin que notre reconnaissance soit à la hauteur, si l'on peut dire, elle ne sera jamais, à la hauteur pour nous, pour ces souffrances qu'il a endurées pour nous, et que l'engagement de notre vie soit à cette hauteur-là, pour le remercier. Alors, devant cette haine qui est contre lui, il ne donne aucune réponse. Il ne donne aucune réponse parce que lui vient accorder le pardon, et même à tous ceux, et surtout à tous ceux qui le haïssent. Ésaïe 53, 7 et 8, « Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. » Il a été enlevé, on a dit la parole tout à l'heure, enlevé par l'angoisse et le châtiment. C'est deux mots très forts. L'angoisse l'a enlevé, tellement il est arrivé au point le plus ultime, et le châtiment, bien sûr. Et la première de Pierre nous dit, on va la prendre, première de Pierre au chapitre 2, 1 Pierre 2, on lira au verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, c'est-à-dire souffrir pour lui, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. Il n'a point ouvert la bouche. Et sur la croix, bien sûr, cela s'est vérifié. Il n'a point ouvert la bouche. Mais sur la croix, il y a aussi, à sa droite et à sa gauche, deux hommes, deux brigands, deux meurtriers, parce que l'un dira, c'est justice parce que ce sont nos crimes qui sont punis. Et dans ces deux hommes qui sont là sur la croix, le Seigneur voudrait nous attirer pour voir pour quelle est pour nous, non pas seulement la leçon, mais la contemplation de son amour ou jusqu'où il va. Dans Matthieu 27, il y a le verset 38 et 34, « Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. » C'est très précis, ils sont à côté de lui, de chaque côté. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière, Matthieu. Dans Marc 15, on l'a lu, versets 27 et 32, ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Dieu n'insiste jamais pour faire de la répétition, mais parce qu'il veut nous montrer des choses très profondes. Et ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi, de la même manière que ceux qui étaient par terre. Et dans Luc 23, 33, alors là, on va revenir sur Luc. Il va se passer quelque chose qui a été la chose la plus importante sur cette croix pour que nous puissions en avoir l'exemple. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi et sauve-nous » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et on voit que tous les deux voient l'attitude de Jésus sur la croix. Ils sont à droite et à gauche, tout près de lui. Ils sont proches de lui et ils peuvent le regarder, mais aussi lui parler. Ce sont les seules personnes qui peuvent parler avec lui sur cette croix. Et ils l'entendent dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça, ils l'ont entendu. Et puis, ils voient sa souffrance la même que la leur. Mais ils voient aussi son attitude dans la souffrance. Eux qui gardaient leur haine contre le monde, même leur haine contre lui, puisqu'il l'insultait. Alors que Pierre lui a dit qu'il voit que lui, injurié, il était injurié, bien sûr, il ne rendait point d'injure. Et il voit cette attitude incompréhensible, maltraitée. Il ne faisait point de menaces, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Ces deux brigands ont eu le privilège d'être à côté du Fils de Dieu crucifié, l'un à droite, l'autre à gauche. Et Ésaïe 53, au verset 3, nous dit « Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Et tous les deux ont pu aussi voir son regard, car ils étaient tout près, à droite et à gauche. Et ils ont pu voir dans la souffrance physique qu'ils partageaient, et pour eux l'angoisse terrible de la mort qui arrivait, eh bien, ils ont pu voir que cet homme partageait leur souffrance. Ils étaient les plus proches, ils allaient aussi mourir. Hébreux 2, 17, 19, et c'est ce qui nous est donné pour nous encourager aussi, qu'ils partagent nos souffrances et nos épreuves. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et ainsi, par cette attitude du Seigneur Jésus, par sa souffrance partagée avec eux, par sa douceur sur la croix vis-à-vis d'eux aussi, et pendant cette prière, « Père, pardonne-leur », et ils le voyaient, puisqu'ils étaient tout près, par son regard d'amour sur la croix pour eux, pour tous les deux, et qui était si important ici, puisqu'ils sont tout seuls avec lui, dans les mêmes souffrances. Et c'est son regard qui va montrer qui il est véritablement. L'un d'entre eux ne voudra pas le salut, puisqu'on l'a vu. L'un des malfaiteurs crucifiés disait « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait. « Attends, regarde. » Par contre, pour le deuxième, il se laisse éclairer par le Saint-Esprit. En étant devant Jésus, le voyant souffrir, voyant son attitude, voyant qu'il lui avait pardonné car il l'a dit, voyant son regard qu'il aimait, le Saint-Esprit alors le traverse, le transperce. La première chose qu'il reçoit, c'est d'abord la conviction qu'il mérite la mort. Qu'il mérite la mort par les hommes qui lui ont donné, bien sûr, mais qu'il mérite la mort en plus de ses morts forfaits, parce qu'il est un pécheur devant Dieu et parce que son fils est en train d'expier pour lui. Et c'est pourquoi il dit « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et alors, cette fois, il s'adresse, après s'être adressé à son camarade de misère, il s'adresse à Jésus. Il a reçu la vérité. Il a reçu le pardon de ses péchés, alors qu'il allait mourir pour aller en enfer. Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il a donc la vision que c'est pour lui qu'il l'a fait. Il a la vision que le Seigneur va partir après la mort dans la région. Le Saint-Esprit lui montre. Et il sait qu'il va revenir. Quand tu viendras, j'ai plus rien, je suis perdu. Mais je sais que toi, tu vas pouvoir me sauver et te souvenir de moi. Quelle parole unique, quelle parole incroyable aussi de cet homme au bout de sa vie dans la souffrance, qui dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et ça suffisait largement, évidemment, puisque le Seigneur va lui dire « Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc Dieu a permis que ces deux hommes soient crucifiés. L'un n'a pas voulu le salut, probablement. C'est la partie, bien sûr, de tous les hommes qui veulent refuser. Et l'autre a reçu le salut. Il l'a reçu juste à la fin de sa vie. Il ne pouvait plus faire de bonnes œuvres pour se réparer. Mais il l'a reçu parce qu'il a cru au Fils de Dieu. Mais parce que le Fils de Dieu lui a montré l'homme parfait et ce qu'il était sur cette croix alors qu'il ne le méritait pas, c'est nous qui le crucifions. Il a montré l'acceptation du châtiment pour nous. Il a montré qu'il ne répondait pas un mot à ceux qui l'injuriaient. Il a montré sa douceur. Il a montré sa bonté et son amour à cet homme sur la croix. Quel moment unique dans l'histoire des hommes. Incroyable, mais profond, pour nous donner encore aujourd'hui cette certitude que l'amour de Jésus-Christ dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et c'est pour nous aussi un exemple, cette croix. Cet exemple, si l'on veut bien, que l'importance de notre témoignage de vie auprès des personnes qui nous sont confiées sur notre route, eh bien, le Seigneur veut nous transformer pour qu'on ait la même attitude qu'a eu Jésus vis-à-vis de ces brigands. Certains accepteront, d'autres refuseront. Il veut qu'on ait cette même attitude et c'est pourquoi il nous donne dans Philippiens 2 une feuille de route, en quelque sorte, en ayant contemplé l'attitude du Seigneur sur la croix. Dans Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, et que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Et la dernière phrase, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Demandons au Seigneur, on ne peut pas les avoir, mais il veut nous donner ses sentiments, parce que ceux que nous rencontrons, ils sont comme le brigand. Ils vont mourir. On ne sait pas l'heure. Alors le Seigneur nous demande, après cet exemple de notre Sauveur si grandiose sur la croix, si humble également, et si plein d'amour pour celui qui est en face, que nous puissions aussi faire sacrifice de nos vies pour lui, chercher toutes les brebis perdues qu'il met sur notre route, et leur montrer, non pas par des versets bibliques, mais par notre regard d'amour et par notre vie, avec ces sentiments qui sont en Jésus-Christ, pour que nous aussi nous amenions plusieurs brigands à la repentance, Voilà quelques versets que j'avais à cœur de partager avec vous sur ces deux brigands qui étaient sur la croix.
On est toujours bouleversé par ce rappel qui nous montre qu'à toute extrémité, il y a encore une possibilité. Il nous a dit dans Isaïe 52 que son aspect différait de celui des hommes tant son visage était défiguré. Et pourtant, ce brigand, qu'est-ce qu'il a vu quand il a dit au Seigneur Jésus, quand tu viendras dans ton règne, il a vu le roi. Quelque chose d'extraordinaire, une révélation phénoménale. Alors que ce qui nous a été rappelé ce matin puisse être gravé dans nos cœurs et puis qu'on s'en souvienne chaque jour parce que le prix était fort.
Notre Dieu, notre Père, Seigneur Jésus, merci parce que tu es vivant. Après avoir subi l'insupportable, si je puis dire, et tu nous l'as rappelé, la croix, où tu as tout accompli par amour. Cet amour, cette sainteté, que j'ai du mal à comprendre tellement elle est extrême, plus qu'extrême, Seigneur Jésus. Cette paix, cette joie, c'est... nous la connaîtrons un jour parce que nous t'appartenons, parce que tu nous as sauvés. Alors merci encore de ta grâce, de ta bénédiction. Prends soin aussi de tous ceux qui ne t'appartiennent pas, Seigneur Jésus, pour qu'ils comprennent qu'à la croix, tu es mort pour eux. Merci encore, Seigneur, de les inviter à se tourner vers toi. Et que nous soyons encore prêts, parce que tu es triomphant et que nous devons te suivre dans ton amour, dans ton saint nom. Seigneur Jésus. Amen.